Bonjour, ici Christelle. Je vais lire le texte de Rama Saladiang, intitulé « Une lecture féministe des événements politiques récents ». Ceci est un article en colère. Un article qui ne pouvait plus se contenter d'admirer les déflagrations de courage d'une jeunesse qui n'a plus que la rue pour apostropher leurs gouvernants au pied d'argile. Puis, l'admiration a cédé le pas au regret de constater que la rue est devenue le théâtre ultime d'expression des populations. Ce qui, immanquablement, alimente les discours politiciens visant à nous diaboliser, nous la jeunesse pour nous peindre en une masse homogène, sans conscience politique, nous mutiler et puis nous tuer. Ceci est un article qui applaudit le manifeste salutaire des 102 sur la crise de l'état de droit au Sénégal, note avec surprise la réaction du secrétaire général Abdou Latif Koulibaly, constate avec délectation le brillant texte, à mon sens, de Adiba et Oumardia. Ce dernier texte soulignait justement deux points importants. Premièrement que, quelles que soient les circonstances, une accusation de viol est une accusation sérieuse qui doit faire l'objet d'une enquête. Deuxièmement, que cette affaire a été politisée depuis le début, non seulement par l'attitude de l'accusé, mais également par l'interférence d'acteurs politiques proches du pouvoir qui ont encadré l'accusatrice. Le texte concluait qu'en instrumentalisant la justice à des fins électorales, il, Macky Sall, nous a installés dans une instabilité juridique qui fait que toute décision de la justice sera interprétée non pas comme un acte légal, mais comme un acte politique. Ces débats faisaient écho à une autre conversation que nous avions tenue quelques jours plus tôt sur le Covid-19, la gouvernance et les droits humains, avec Dr Oumoul Kheri Koulibaly, Ousmane Ali Diallo et Adiba, qui alertaient sur cette crise de l'état de droit au Sénégal, qui, loin d'être une exception, n'a plus de démocratie que de nom depuis une ou deux décennies. Ceci est donc un article qui recontextualise le besoin de continuer à libérer la parole, car le danger du discours dominant actuel est de censurer la parole des prochaines victimes de viol ou de violences sexuelles. Depuis le début de cette affaire, nous avons constaté un traitement inique de part et d'autre. D'une part, Hadji Sarr, traîné dans la boue de la presse et sa vie étalée au grand public, tandis que Sonko était lavé à grande eau, avant toute instruction du dossier. De l'autre, le même Ousmane Sonko, faisant face à un pouvoir judiciaire pressé de traiter cette affaire de viol avec un zèle qu'on ne lui connaissait pas, qui l'a mené en prison pour des motifs fallacieux, bien différents de ceux qui ont été à l'origine de cette affaire. Cette combinaison de facteurs lève le voile sur un trait de caractère socioculturel bien sénégalais et mène la majorité de l'opinion à victimiser le présumé oppresseur, Sonko, lui-même oppressé par un bourreau commun au peuple sénégalais, aux allures de Léviathan, le régime de plus en plus présidentialiste sénégalais, et à blâmer la prétendue victime, Hadji Sarr, la fille de 20 ans, accusée d'être au cœur d'une machination fomentée par les proches de Beno Ben Yakar. Cet article ne se satisfait donc pas d'une émotion qui, trop vite et maintes fois, mène à l'omission des faits en l'état, une accusation de viol, qui ont constitué l'étincelle au départ de ce feu qui se propage, s'amplifiant et se nourrissant de frustrations qui sont sédimentées depuis 2012. Ceci est le fruit d'une combinaison de facteurs. Premièrement, l'érosion perpétuelle de notre architecture du droit par le viol de notre charte fondamentale. Deuxièmement, l'instauration d'une république des privilèges au profit d'une minorité heureuse. Et enfin, troisièmement, le floutage progressif des frontières entre les domaines de l'exécutif, du judiciaire et du parlement. Il convient donc de rappeler que dans tous les cas, Hadji Sarr est et reste soit une victime, ou de son co, ou de son employeur suite massage, ou une coupable avec ceux et celles qui auraient ourdi cette prétendue machination de viol. Dans tous les cas, son cas est allégorique du traitement et de la stigmatisation des victimes de viol et de violences sexuelles, de la culture du viol dans notre pays. Notre pays dont la gouvernance reste désespérément masculine, et dans lequel le corps des femmes est depuis toujours une arène de bataille politique. Loin de moi toute tentative de décider ce qu'il convient de juger comme bonne ou mauvaise mœurs. Mais il convient à la police et à la justice de creuser au-delà des discours de respectabilité de part et d'autre pour caractériser les faits qui se sont produits. Peu importe la classe sociale ou l'identité des plaignants ou des accusés, il est normal d'espérer un traitement égal de tous et toutes les citoyennes devant la loi. Le traitement de cette affaire, non seulement par la justice, mais aussi par le tribunal populaire de la société sénégalaise, fera cas d'école et pourra encourager ou étouffer la libération de la parole de milliers de victimes de viols et d'abus sexuels. Il peut potentiellement et tragiquement désinciter ces dernières à entrer en justice. Car l'opprobre social, le décompte de sa parole en public et le lourd tribut réputationnel sont un prix bien trop lourd à payer pour que ces dernières osent continuer à faire confiance en leur justice. Il convient donc de veiller au respect des droits et libertés fondamentales garantis par notre Constitution en son article 7 pour un traitement équitable des deux parties en présence, autant Hadji Sarr qu'Ousmane Sonko, pour une instruction impartiale et juste. C'est donc le lieu à travers cette affaire qui n'a que trop débordé, car instrumentalisé à des motifs politiques, électoraux, de montrer que la justice pour les pauvres n'est pas une pauvre justice, et d'abolir les privilèges de classe et les violations de notre charte sacrée, qui nous rappelle en son article 42 que « Le président de la République est le gardien de la Constitution. Il est le premier protecteur des arts et des lettres du Sénégal. Il incarne l'unité nationale. Il est le garant du fonctionnement régulier des institutions, de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire. » Ceci est donc un texte qui dit non à l'illusion de trop qui veut faire illusion et usage de raccourcis faciles pour étouffer d'un côté les paroles d'une énième dénonciatrice de violences sexuelles, qu'il revient à la justice d'évaluer et de trancher, et de l'autre le discours et l'action d'un ministre de l'Intérieur aux allures pétainistes, bras armés de l'exécutif, prompt à user et de la rhétorique et de la terreur et du monopole de la violence légitime pour surveiller et punir, tuer aussi s'il faut. En effet, au terme de plusieurs semaines de débats houleux, le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diomé, a surpris par le ton de son adresse publique télévisée. Dans un discours bilingue, à géométrie variable, le ministre a donné une version française peu ou prou politiquement correcte, se terminant avec une promesse déplacée d'alléger les mesures de couvre-feu, sous peu, comme si telle était la source des tensions. Le discours en Wolof, en revanche, était plus menaçant et alarmant sur les circonstances de l'arrestation de Sonko et à l'endroit des manifestants. Le ministre de l'Intérieur, s'exprimant alors qu'une sortie présidentielle aurait été plus appropriée, a fait usage de termes inappropriés, à la limite de l'insulte, pour encore une fois caractériser les jeunesses sénégalaises de masse terroriste. Ceci prouve une fois de plus le fossé qu'il existe entre ceux qui nous gouvernent et nous-mêmes, leur incapacité à lire les actes posés. Prendre le recul obligatoire, l'urgence de réagir ou de sembler agir, et résister aux instincts grégaires pour laisser aux idées le temps de la maturation nécessaire, est pour moi une quête. Un privilège aussi, je le concède. Alors qu'approche le 8 mars, il convient aussi de reconnaître que le temps semble être la devise rare, un énième privilège qui ne fait pas défaut à la majorité d'hommes politiques affables qui ont pris d'assaut les médias de leur belle balade du sabbat d'or depuis le début de cette affaire. La pauvreté du temps est un phénomène bien connu de la plupart des femmes qui combine moult casquettes et rôles sociaux. Pour ma part, bien que le sursaut d'indignation était présent depuis les premiers jours de ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Hadji Sarr Ousmane Sonko, il me fallait trouver un créneau entre l'enseignement à l'université, le labeur de mère et le temps du recueillement et du repos que je m'impose. Pour m'indigner comme je le souhaite, sans qu'aucun événement externe ne vienne troubler ce silence temporaire et salutaire du temps. Dans le même temps, je souhaite aussi résister à l'urgence d'agir ou de réagir qui caractérise souvent le temps des réseaux sociaux. Mais de rester fidèle au temps du chercheur, qui ne doit aucunement se mouler dans la hâte, mais épouser le temps de l'investigation silencieuse, la nonchalance féconde, le loisir de la lenteur, de l'introspection et de la rétrospection, basé sur une analyse scrupuleuse des faits et parfois nécessairement de l'intime conviction aussi. Mon intime conviction, et que l'actuel gouvernement sénégalais n'a pas su lire clairement les actes de son peuple. Il n'a surtout pas su voir au-delà de cette affaire Sars Sonko et comprendre qu'elle ne fait que cristalliser des frustrations et des rancœurs plus anciennes à l'endroit du président actuel, qui suit les pas de son prédécesseur pour se dédire au sujet d'un probable troisième mandat, traitant ceux et celles qui l'ont porté au pouvoir comme une masse insignifiante. Que de pertes inutiles en vie humaine, face à un mutisme d'un dirigeant au mieux amnésique, qui n'ignore nullement que l'histoire peut se répéter soit en tragédie, soit en farce. Il semble que l'on a emprunté le premier chemin.